Bonjour, vous retrouvez comme chaque dernier jeudi du mois l'association Noah Osez le Dire, qui est une ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences conjugales, également de violences familiales. Vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 13h à 16h au numéro suivant, le 01 47 07 39 55, je répète, le 01 47 07 39 55. Vous pouvez également consulter notre site internet qui est en pleine révolution, on le met actuellement à jour, et nous suivre sur Facebook. Donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Yordana Moati, qui est consultante conjugale et familiale. Bonjour.
Bonjour Nicole Silbert.
Je voulais donc savoir que vous nous expliquiez un peu pour nos auditrices comment s'effectue le travail que vous faites avec les couples, comment ils sont amenés à vous rencontrer et disons l'évolution dans le travail que vous effectuez avec eux.
D'accord. Alors, tout d'abord, comment est-ce qu'on peut me rencontrer ? Alors, déjà au niveau communautaire, via les associations juives, je commence un petit peu à être connue et donc il y a pas mal de monde qui pourront vous recommander à moi. Maintenant, pour parler de mon travail. Mon travail, ça consiste essentiellement à travailler autour du lien. Alors, ça peut être le lien parent-enfant, ça peut être le lien conjugal, donc entre époux, et ça peut être aussi le lien avec soi-même. Les gens qui viennent consulter viennent pour résoudre des problèmes qui les gênent dans leur quotidien, que ce soit la difficulté à construire une relation durable, hein, c'est-à-dire des personnes célibataires qui ont du mal à former un couple, hein, ou bien que ce soit un dysfonctionnement, par exemple, dans la famille. Donc des parents qui ont du mal à gérer ce qui se passe dans leur famille avec leurs enfants, qui ont du mal avec l'éducation de leurs enfants, ou bien ça peut être aussi par rapport au couple, qui a une crise de couple, etc.
Est-ce que vous recevez les couples ensemble ou est-ce que ça vous arrive de recevoir une des deux personnes du couple ?
Alors, moi je propose les deux formules. C'est-à-dire que parfois, le couple est tellement en crise qu'ils n'arrivent tellement pas à être ensemble dans la même pièce qu'ils me disent qu'ils ne veulent pas venir ensemble. Donc j'accepte complètement ce désir-là et je leur propose effectivement de venir de manière séparée. Et une fois que les choses auront été dites, ça sera plus facile pour eux de venir ensemble. Mais on va dire que l'idéal, c'est quand même de venir ensemble si on a la possibilité de le faire. Dans la mesure où une personne est en difficulté, ou une famille vient consulter, et qu'elle souhaite s'en sortir, alors, et qu'elle est prête à faire un travail sur elle-même, donc on va dire que le travail d'accompagnement peut commencer. C'est-à-dire que là, on est dans des bonnes conditions, et là, un vrai travail peut se faire. Donc on va dire que toute personne qui arrive positive à un entretien, on va dire que le travail va commencer, il va se faire, et puis ça va prendre. Je tiens quand même à souligner que dans ces entretiens-là, tous les sujets peuvent être abordés pendant la consultation, que ce soit la famille au sens large, ça veut dire les frères, les sœurs, les tantes, les oncles, etc., qui ont une influence sur la famille, qui ont un impact sur la famille, peuvent être amenés à, on va dire, ces sujets-là peuvent être abordés en consultation. On va parler aussi souvent, très souvent même, de ce qui se passe à l'intérieur du couple, que ce soit la communication ou même l'intimité du couple. Donc moi, j'accompagne la personne et le couple dans son cheminement. Et c'est donc à son rythme que va se faire le travail.
Mais vous avez aussi, j'imagine, on a souvent reçu ici des assistantes sociales qui disaient qu'au début d'un entretien, tout n'est pas dit. Et c'est au fur et à mesure de la discussion et du déroulement de l'entretien qu'on apprend finalement pas mal de choses. C'est-à-dire qu'au début, on parle d'un problème financier et puis finalement, après, on s'aperçoit que c'est des problèmes de violence. Est-ce que vous c'est aussi votre façon de travailler, c'est-à-dire finalement de détecter ce qui ne va pas dans le couple ?
Absolument. C'est-à-dire que au début, quand le couple arrive, même pendant toute une séance, ils peuvent parler de choses qui ne devraient a priori pas avoir d'impact sur un couple. Bon, des tensions au niveau financier, des choses comme ça, mais qui, a priori, prises séparément, n'auront pas d'impact. Alors ça s'appelle la façade. Donc on a un tas d'éléments qui sont des éléments de façade et sur lesquels on va se disputer. On va se disputer pour ceci, pour l'éducation de l'enfant, on n'est pas d'accord, tatatatata. Et finalement, si on arrive à continuer un travail de manière positive, etc., on va se rendre compte que le problème se situe souvent ailleurs. Et c'est plus profond, c'est beaucoup plus axé sur le ressenti, sur ce que le couple a partagé ou n'a pas partagé, etc. Et qui va être, on va dire, la raison du conflit, en fait.
Donc j'imagine que c'est à ce niveau-là qu'au fur et à mesure des entretiens que vous avez avec ces couples, vous arrivez à mettre le doigt sur ce qui ne va pas.
Exactement. Et en fait, le couple attend ça. Le couple attend, en arrivant, qu'on découvre ce qui ne va pas. Même s'il sait exactement ce qui ne va pas, il ressent les choses, et ben c'est un petit peu avec ce travail-là, il attend que ce travail-là les amène à parler de ce qui les dérange réellement.
Donc finalement, c'est l'intérêt d'avoir justement dans toutes les formes, je dis médiation, mais je sais que vous êtes conseillère conjugale, avoir une tierce personne qui permet de remettre le couple, j'imagine, ensemble et de pouvoir communiquer, pouvoir recommuniquer.
On va déjà temporiser les choses, c'est-à-dire amener un calme, mettre des mots, comprendre l'un l'autre, qu'ils se sentent écoutés, qu'ils sentent que les problèmes qu'ils rencontrent, c'est quelque chose qui est important, qu'il faut s'en occuper, que l'un et l'autre vont devoir s'investir pour s'en occuper. Tous ces éléments-là, ce cadre, on va dire, calme, apaisant, un professionnel en face qui comprend de quoi on parle, et bien tout ça, ça va aider, ça va mettre un climat qui va favoriser le dialogue, qui va favoriser la communication. Moi, ce que j'attends, on va dire, de ces consultations-là, c'est que le couple apprenne à communiquer différemment. C'est-à-dire qu'on va utiliser le langage verbal. On va cesser de crier, on va cesser d'utiliser la violence pour s'exprimer et on va retourner à l'époque où on s'exprimait avec un langage verbal. Et tout ça, ça va pouvoir permettre au couple de refaire un contact, de refaire un lien. C'est ces choses-là, on va dire, qui vont expérimenter en séance cette manière de se parler, cette manière de se regarder, cette manière de s'écouter, de recommuniquer. C'est ça qui va les aider par la suite à recommuniquer ensemble.
Alors, bon, c'est des questions pratiques. Ça dure à peu près combien de temps, une séance avec vous ?
Une séance, ça dure une heure. D'accord. Voilà. Maintenant, je vous cache pas qu'il arrive que si j'ai pas d'autres personnes après et que je vois que le couple a besoin d'un petit peu plus de temps, la séance va durer un peu plus.
Ouais. Et alors, il faut quand les gens sont investis, c'est-à-dire quand ils veulent vraiment s'en sortir, mm-hmm. trouver une solution à l'amiable, se reconstruire ensemble, il faut compter à peu près combien de séances ? C'est variable, j'imagine.
Alors, tout est variable. Ça dépend jusqu'à où on a été aussi avec son conjoint. Est-ce qu'il y a eu de la violence ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de violence ? Est-ce qu'il y a eu des non-dits ? Est-ce que ça a été plus calme ? Est-ce que c'est aussi un couple qui arrive à communiquer ou qui a vraiment pris des habitudes de communication très compliquées ? Alors, tout ça, ça dépend de chaque couple. Ce qui est important, c'est que quand on commence un travail, c'est de continuer. C'est-à-dire que souvent, en sortant de la première séance, le couple va beaucoup mieux. Et il se dit, on a tout réglé, on n'a plus besoin de revenir, on s'entend beaucoup mieux, on arrive à communiquer, etc. etc. Et ça, j'en ai très souvent, des couples qui ne reviennent plus à la deuxième séance, bien que je leur ai dit, il faut revenir.
Il faut continuer le travail,
il faut aller jusqu'au bout, faut parler de tout, il faut qu'il n'y ait plus de choses, on va dire, sur le cœur, qui vous chagrinent, qui vous ont fait mal, il n'y a plus de rancune, tout est bon, tout est à plat.
Vous pouvez repartir sur de bonnes bases.
Voilà,
vous m'aviez, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit qu'il vous était arrivé de recevoir des couples où vous saviez d'ores et déjà que ça ne marcherait pas, que ce n'était pas la peine de commencer un travail.
Alors, c'est des couples parfois qui viennent pour demander, on va dire, l'autorisation à la consultante conjugale de divorcer. Voilà, parce qu'on ne s'entend pas, parce que c'est trop négatif pour tout le monde, parce que les enfants souffrent, etc. Donc, il y a une liste de raisons pour lesquelles ils ont décidé de divorcer et ils veulent, en gros, mon autorisation. Et à partir de là, quand ils arrivent dans cette optique-là et que tout est fermé, qu'il n'y a pas vraiment de volonté de faire un travail, ben malheureusement, c'est très difficile de travailler. Mais généralement, la plupart du temps, je peux dire que les couples qui arrivent avec des intentions très positives de reconstruction, de reconquérir le partenaire, d'apporter des solutions, de changer ce qui ne va pas, ces couples-là ont vraiment toutes les chances d'y arriver.
Alors, je vais vous poser une question qui va peut-être vous embarrasser, parce qu'on a eu, j'ai eu des rabbins qui sont venus à ce micro et qui étaient bien évidemment pour le shalom baït. Est-ce que vous, c'est votre cas? Est-ce que vous essayez malgré tout, même en voyant que c'est quasi impossible de reprendre une relation commune, de leur dire allez-y, recommencez. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites?
Alors moi, quand je reçois un couple, je leur pose la question assez rapidement, pourquoi vous êtes venus? Et en fait, c'est là qu'on va poser les choses. Enfin, c'est pas moi qui vais les poser, c'est eux-mêmes. Et qui vont dire, voilà pourquoi je suis venue aujourd'hui. Je demande à madame, je demande à monsieur. Dites-moi exactement pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous êtes venus? Qu'est-ce que vous attendez de cette séance? Est-ce que vous avez envie de faire un travail? Quels sont vos projets? Et en répondant à ces questions-là, en fait, ils se rendent compte par eux-mêmes s'ils ont envie de continuer ou pas. Moi, j'ai pas donné mon avis, moi, de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faudrait faire, ce qu'ils devraient faire. Tout ça ne rentre pas en compte.
Madame Yordana Moati, je vous propose une petite interruption musicale et puis nous reprendrons cet entretien tout de suite après.
Je suis loin, entre le ciel et la terre, on se voit, on se gâte, et toi tu veux tout faire, et là on s'éclate. Ne m'en veux pas, je t'en prie, ne m'en veux pas. Tu comprendras. C'est à nous de choisir, mon amour, mon petit roi. Il y a des bons moments à vivre, il y a des hauts, il y a des bas. C'est à nous de réussir, mon amour, mon petit roi. Il y a des
oui. Oui, bonjour. Nous nous retrouvons après cette interruption musicale avec Madame Yordana Moati. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission de l'association No Osez Le Dire, une ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences conjugales. Vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 13h à 16h au numéro suivant, le 01 47 07 39 55. Je répète, le 01 47 07 39 55. Consultez notre site internet noaosezledire.fr et nous suivre sur Facebook. Donc, dans une première partie, vous nous avez décrit la manière dont vous receviez je ne sais pas s'il faut employer le mot patient, mais en tout cas les couples qui avaient des problèmes et qui avaient besoin de votre aide, la manière dont se déroulait ce travail. Et dans une deuxième partie, ce serait bien qu'on parle des petites, entre parenthèses, violences familiales, puisque Noah, osez le dire, a maintenant la fonction de s'occuper non seulement des violences conjugales, mais également des violences familiales, puisqu'on s'est aperçu, bien évidemment, du retentissement de ces violences sur les enfants.
Oui, alors effectivement, de par mon expérience, j'ai été amenée à parler de ces violences conjugales que je ne qualifierais pas forcément de petites. Parce que quand ces violences ont un impact, se font sur des enfants et des jeunes enfants, l'impact qu'il peut avoir, il est très grand. Alors, ça me fait penser un petit peu à un petit exemple, si vous permettez, Nicole Zilbert. J'avais rencontré il y a quelque temps une maman qui avait trois enfants, trois filles, et au moment où elle a découvert qu'elle attendait son troisième enfant, elle a voulu se séparer de son mari. Et donc la naissance arrive et finalement le couple décide de continuer de vivre ensemble et d'accueillir cet enfant. Et cette maman-là n'a pas réussi à établir un lien depuis le début avec ce troisième enfant, donc cette petite fille. Et cette petite fille, donc, au quotidien, vivait vraiment une forme de violence, puisque déjà elle n'avait pas l'amour de sa mère. Elle avait l'amour de son père, mais sa mère, du fait qu'elle n'arrivait pas à créer un lien avec cet enfant, qui l'avait entre guillemets empêché de se séparer du papa, elle n'arrivait pas à créer un lien. Et ça se vivait au quotidien, à la maison. Elle n'arrivait pas à lui parler, elle n'arrivait pas à la câliner, elle n'arrivait pas à s'occuper d'elle, elle n'arrivait pas à faire attention à elle, elle n'arrivait même pas à lui parler. Et cette maman me dit, cet enfant-là, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, je ne la supporte pas, je ne supporte pas sa présence à la maison. C'était vraiment très très difficile, une situation très très difficile à vivre au quotidien pour cet enfant-là. Et je me demande en fait comment va pouvoir grandir cet enfant-là sans l'amour de cette mère-là, sachant que c'est quelque chose qui va durer toute sa vie probablement si aucun travail n'est fait. Et donc à cet moment-là, je lui ai dit, écoutez, il faut vraiment que vous fassiez un travail avec votre enfant et aussi peut-être en parallèle de votre enfant, que vous puissiez arranger cette situation-là, parce que c'est des choses qui ne peuvent pas perdurer dans le temps. Et la maman n'était pas prête à faire ce travail-là. Elle a complètement refusé. Elle admettait qu'il y avait un vrai problème, mais refusait de s'en occuper. Et malheureusement, les dégâts qui étaient déjà à l'époque faits sur l'enfant et qu'on voyait complètement chétive, triste, repliée sur elle-même, qui avait du mal elle-même à communiquer avec son entourage, qui vraiment, on voyait qu'elle vivait une douleur. Ça se voyait, c'était visible, quoi. Et bien, cette petite-là, elle a dû grandir avec ce qu'il en était, quoi. Avec ce qu'il en était. Et ce que j'ai envie de dire par là, c'est que à tout moment, il est possible d'arranger les choses. C'est-à-dire que même une personne qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui a envie d'arranger ce lien-là avec son père, avec sa mère, avec son frère, avec sa sœur, à tout moment, il y a maintenant des professionnels qui sont prêts à recevoir ces familles-là, à recevoir ces couples-là de parents-enfants, pour pour arranger ces situations-là, pour fluidifier la communication, pour s'occuper du lien, parce que quand, de toute façon, quand une situation comme ça perdure, eh ben, elle va perdurer dans le temps. Elle va perdurer dans cette génération-là, voire dans les générations qui suivent. Quand un problème n'est pas réglé, eh ben, malheureusement, il est transmis à la génération future comme une valise lourde à porter qu'on transmet en héritage à la génération d'après.
Oui, c'est effectivement assez douloureux ce que vous racontez. Et dans ces cas-là, est-ce que il n'y a pas une possibilité de prendre l'enfant en psychothérapie ou de faire en sorte qu'elle puisse surmonter cet état de fait, ce désamour?
Bien sûr, il y a des thérapeutes qui sont là pour s'occuper de cet enfant-là. Mais en même temps, si la maman n'a pas du tout envie de s'investir un minimum dans cet enfant-là, alors on va essayer d'arranger, on va essayer de faire parler l'enfant, de le faire exprimer. Mais en même temps, c'est dommage de passer aussi à côté de ça, de pouvoir créer un lien avec son enfant.
Et le papa dans l'histoire?
Alors le papa dans l'histoire, du coup, a doublé d'amour pour cet enfant, ce qui a provoqué un déséquilibre dans la famille, puisqu'il était beaucoup plus présent, beaucoup plus attaché à ce troisième enfant qu'avec les deux premiers. Donc du coup, les deux premiers se sentaient en quelque sorte abandonnés un petit peu du père au profit de la troisième, et ils sentaient en même temps ce déséquilibre de la mère qui n'aimait pas la troisième. Donc ça provoque un sentiment de culpabilité chez les deux premiers enfants qui, eux, méritent l'amour de la maman, contrairement au troisième. Alors vous pouvez vous imaginer un petit peu le système qui est mis en place dans cette famille.
Donc pour vous, au sein de cette famille, aujourd'hui, la situation ne peut pas évoluer, c'est bloqué.
S'il n'y a pas un travail thérapeutique qui est fait, à mon avis, ça va être difficile d'améliorer la situation.
Et cet enfant, plus tard, il va se passer quoi, à votre avis?
Alors, difficile de le savoir, hein, mais on va dire qu'elle ne part pas forcément avec toutes ses chances dans la vie. Ça va forcément avoir un impact sur son lien aux autres. Ça va peut-être avoir aussi un impact dans le choix de son conjoint. Est-ce qu'elle va choisir quelqu'un qui va l'aimer ou qui sera incapable de l'aimer? Est-ce qu'elle va réussir à aimer ses propres enfants puisqu'elle-même n'a pas été aimée? Est-ce qu'elle va réussir à transmettre tout ce qu'elle n'a pas reçu? Est-ce qu'elle-même, elle va avoir des enfants, en gros, équilibrés ou pas?
Oui. Alors, c'est vrai que votre témoignage est douloureux, très douloureux. Chez Noah, dans les appels que nous avons eus, nous n'avons jamais eu ce type d'appel. Mais par contre, nous avons eu beaucoup d'appels de femmes qui étaient très très inquiètes pour leurs enfants, parce que leurs enfants étaient témoins de scènes extrêmement violentes. Vous voyez leur père battre leur mère, ou les gifles, ou les injures, des choses extrêmement violentes. Et que peut-on faire pour ces enfants-là?
Ce qu'on peut faire pour ces enfants-là, c'est déjà, pareil, qu'il y ait un suivi qui soit fait auprès d'un professionnel, thérapeute ou psychologue ou quoi que ce soit, pour qu'ils aient une possibilité déjà de déposer ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent à la maison. Il faut savoir que c'est très difficile pour un enfant de se construire dans un environnement violent. Parce que, en vérité, ce qu'il va vivre au sein de sa famille, ça va être sa normalité. C'est-à-dire que pour lui, ben, c'est normal que papa frappe maman, c'est normal que je vois ça, et quand je vais grandir, eh ben, peut-être que je vais faire pareil, sûrement, puisque c'est mon exemple quotidien, et que moi, finalement, en tant qu'enfant, je me représente en tant qu'adulte, comme mon père, comme ma mère. Alors la fille va peut-être avoir tendance à s'identifier à sa mère comme une personne qui doit accepter la violence, qui est soumise, qui reçoit les coups et qui bouge pas, qui fait pas grand-chose, etc. Et qui accepte la situation dans le cas où c'est le cas, on va dire. Et puis le garçon va s'identifier au père et il va vivre à peu près la même situation. Alors évidemment, l'idéal, hein, ça serait que ça cesse et qu'on puisse en parler au sein de la famille, ça serait l'idéal, mais malheureusement on se rend bien compte que c'est pas ça, donc évidemment l'accompagnement reste quand même une solution pour ces enfants-là.
Yordana Moati, nous allons bientôt arriver au terme de cette émission qui est à la fois courte pour ce sujet-là. Et puis, y aurait évidemment plein de sujets à aborder. Est-ce qu'il y a un élément que peut-être vous voudriez dire en conclusion ?
Alors, la conclusion, c'est la conclusion d'une personne qui est au contact des familles en crise la plupart du temps. Dire que les familles en crise, c'est normal. On est tous, à un moment donné, en situation de crise. C'est ce qui fait évoluer la famille, c'est ce qui fait évoluer le couple. Et à nous d'en tirer un avantage.
Je vous remercie. Je vais indiquer votre numéro de téléphone pour les personnes et auditrices qui seraient intéressées à vous rencontrer. C'est le 06 21 69 65 04. Je répète, le 06 21 69 65 04. Vous étiez à l'écoute de l'émission mensuelle de l'association Noah, Osez le dire, ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences conjugales. Vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 13h à 16h au numéro suivant, le 01 47 07 39 55. Je répète, le 01 47 07 39 55. Vous pouvez consulter notre site internet noahosezledire.fr et nous rejoindre sur Facebook. Au revoir et à bientôt.